Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Je vais vous dire un truc. Quand il s'agit de la bonne personne, on peut essayer de vivre une autre vie que la sienne, on peut vivre toutes les épreuves. Tout nous ramènera toujours à celle ou celui qui nous est destiné. Et dans le cas de Margot, rien n'aurait pu l'éloigner de l'homme de sa vie.
Nous sommes en 2006, j'ai 22 ans et je suis étudiante à la Sorbonne à Paris en licence de lettres modernes. Et je m'ennuie pas mal à Paris, surtout que je n'ai rien à faire dans ces études trop générales à mon goût. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le journalisme et plus particulièrement le journaliste de terrain. Je rêve d'être reporter de guerre. J'ai assisté aux événements du 11 septembre. Avec effroi, mais avec un certain intérêt sur la situation internationale, la géopolitique. Et c'est suite à ces événements-là que je découvre ce métier. Et puis je viens d'une famille avec un milieu social très classique, néo-aristo, plus ou moins bourgeois. Je vis plutôt agréablement Paris, rive gauche. Où j'enchaîne les examens à la Sorbonne avec les happy hours avec mes amis. Un avenir me semble tout tracé, fin des études, a priori un stage en tant qu'attachée de presse dans la maison Hermès. Tout ça me semble plutôt sympa, mais très prémédité, très écrit. Donc moi, ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est d'aller à l'opposé de tout ça pour voir si j'y suis, s'il y a une autre Margot, une Margot que j'ignore encore parce que je n'ai jamais voyagé. Dans ma famille, on passe des vacances dans nos maisons secondaires, donc en Bourgogne et en Espagne. On n'a quasiment jamais pris l'avion. Et l'opposé de ma vie parisienne, j'ai décidé que ce serait Kaboul, que ce serait l'Afghanistan. En 2006, il y a deux terrains de conflit. Il y a l'Irak, mais l'Irak, à ce moment-là, a un regain d'attentats avec fermeture des frontières, impossibilité d'obtenir un visa. En revanche, en Afghanistan, en 2006, on est quelques années après la chute des talibans, et il y a une ambiance assez effervescente, en fait, avec beaucoup de positivité sur l'avenir. On a compris que ce ne sera pas sur le terrain du conflit qu'on gagnera le cœur des Afghans, donc plutôt sur la communication. Et là-dessus, il y a plein de projets qui sont financés. C'est ce qu'on appelle la guerre des idées, la guerre d'opinion. Ce qui motive mon choix d'aller en Afghanistan, c'est de surprendre. Alors, de surprendre mon entourage, ça c'est sûr. J'ai 22 ans, j'ai très envie d'exister. J'ai un grand frère, une petite sœur et comme beaucoup de personnes qui sont dans une fratrie au milieu, on se sent peut-être un petit peu oublié. Mais j'ai aussi, je crois que j'ai très envie de me prouver quelque chose. Il y a peut-être une intuition, quelque chose déjà de l'ordre de l'irraisonnable. Une intuition que mon avenir ne se limitera pas à l'Île-de-France. Parce que concrètement, je suis entre Paris et le 78. C'est quand même assez triqué pour moi. Et j'ai envie de me prouver quelque chose. Je ne suis pas une aventurière sur le papier. Et pourtant, j'ai vraiment ce besoin d'aller très loin, d'aller ailleurs, d'aller à l'opposé de tout ça, pour me prouver que j'ai une personnalité qui peut coller avec l'aventure. C'est aussi le choix de l'Afghanistan, c'est que c'est un terrain en conflit, il y a du travail en tant que reporter de guerre. Mon entourage réagit en deux temps. Mon père a cette phrase assez amusante, assez synthétique. Il me regarde, au bout d'un moment, il comprend vraiment que je deviens presque bornée sur ce projet. Et il va me dire « Barbie s'en va en guerre ». Voilà, il faut savoir que je fais 1m60, que je suis blonde, je ne pèse pas très lourd, j'ai jamais vraiment fait de sport. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être un contraste entre une certaine fragilité, un physique encore très juvénile, hein. J'ai 22 ans, je fais très très jeune en plus physiquement, et puis ce monde empreint de tellement de clichés qu'on a suivi dans les médias pendant l'occupation soviétique, pendant l'arrivée des talibans, suite au 11 septembre, etc. Donc il y a un vrai contraste. Quant à ma mère, c'est plus conflictuel, elle ne comprend pas. En revanche, quand elle aura compris mes motivations, elle va tellement adhérer au projet que c'est elle qui un jour m'emmène dans le centre commercial qui est à côté de chez nous, dans 78, et qui ouvre la porte d'une agence de voyage. Et là, on se retrouve devant une dame médusée à demander un billet, aller simple, Paris-Kaboul. Donc j'arrive en Afghanistan, à l'aéroport de Kaboul, en septembre 2006. J'avais très peu préparé mon arrivée. Heureusement, quelques jours avant, j'ai pris contact avec une entreprise française de conseil qui a quelques guest houses. Donc les guest houses, ce sont des logements qui sont rattachés à des entreprises ou à des ONG, qui sont des logements totalement sécurisés. C'est comme des grandes colocations avec tous les employés de l'entreprise. Ce sont souvent, même carrément, une obligation auprès de l'entreprise d'y vivre, mais aussi auprès de nos ambassades. Parce qu'on doit respecter des règles de sécurité pour éviter des accidents diplomatiques, par exemple en cas de prise d'otage. Donc c'est eux qui vont me loger. Je paye une chambre dans cette guest house. Il y a beaucoup de Français, mais il y a toutes les nationalités. On vient me chercher à l'aéroport et je suis presque détachée de mon corps. Je suis tellement loin de mes repères que tout ce que j'observe à travers la vitre du van blindé qui vient me chercher, j'ai l'impression presque de le voir à travers une télé. Je suis là plus en tant qu'observatrice qu'en tant qu'actrice. Ce sera bien plus tard que tout mon corps va se mettre en mouvement et va comprendre que ça y est, je vis dans cette autre réalité qui va devenir carrément la mienne. Je vais y passer 3 ans. Je vais m'installer dans une maison. Je vais m'installer dans un travail. Je vais m'installer dans une routine. Malgré une situation un peu précaire, parce qu'on gagne pas beaucoup d'argent, parce qu'on est entouré par la pauvreté. Une situation dangereuse, parce qu'il y a des attentats en 2006. Il y a ce qu'on appelle les suicide bombers. Ce sont des civils qui se font exploser. Donc ce sont ce qu'on appelle les martyrs. Et l'intérêt est de faire un maximum de dégâts. Et les cibles premières, c'est nous. C'est les internationaux. Donc il y a cette guest house dans laquelle je loue une chambre. Et du coup, je rencontre très vite toute une bande de Français, plutôt sympa. Et l'hiver est très long. On est au début de la chaîne de l'Himalaya. Donc en hiver, il peut faire jusqu'à moins 20 degrés. Donc les soirées d'hiver, souvent, se passent dans les chambres des uns et des autres, autour d'un bourali. Donc c'est une sorte de poêle qu'on alimente avec des petites bûches. Et dans la chambre d'un certain Clément, tout le monde se précipite là parce que c'est le seul qui arrive à télécharger des versions piratées, plus ou moins de qualité, des séries américaines. C'est lui aussi qui aura trouvé des DVD au marché noir de Kaboul. Et donc, c'est sur son ordi, sur son PC qu'on s'agglutine. On est peut-être 4, 5. On se tient chaud autour de ce Bourali à regarder des versions vraiment de très mauvaise qualité de... alors, à l'époque, c'est quoi? C'est Prison Break, 24 heures chrono, ce genre de série. Et moi, Clément, je le remarque à peine. Lui, il vient de faire un quasi-tour du monde en vélo. C'est quelqu'un qui a la bougeotte depuis très jeune. Il a poursuivi ses études en échange universitaire en Afrique du Sud. Et c'est à Johannesburg qu'il décide qu'il fera Singapour-Paris en vélo en 18 mois. Il passera par Kaboul. Il est tombé fou dingue de cette ambiance kabouli. Et après la fin de son voyage, cette entreprise française de conseil lui a proposé un poste en finance et lui a dit « reviens, viens passer un an avec nous ici à Kaboul ». Et c'est ce qu'il a fait. À ce moment-là, je rencontre un jeune homme il a 2 ans de plus que moi, il a 24 ans, il est brun. Il a une espèce de bouc, il porte des sarouels, il a plein de bracelets tibétains. C'est très, très, très loin des mecs qui m'intéressent. Moi, je suis focalisée, reporter de guerre, baroudeur, des types qui ont beaucoup d'expérience, énormément de charisme. Donc moi, le jeune néo-hippie qui vient finir son voyage... Il m'intéresse très peu. Je sais que nous allons, à un moment donné, passer quelques jours ensemble parce qu'on a un petit groupe d'amis qui décident pendant quelques jours de congé. Je pense que ça doit être l'Aïd. L'Aïd, c'est la fin du Ramadan. Donc, ce sont des jours fériés nationaux. Personne ne travaille. Et on décide tous de partir à Mazar-e-Sharif, qui est une grande ville dans le nord du pays, où il y a une mosquée absolument magnifique et il fera partie de ce voyage. Je pense qu'on s'intéresse très peu l'un à l'autre. Lui, il me perçoit avec beaucoup d'interrogations. Il voit une jeune blonde parisienne. Je crois que c'est pas du tout ce qu'il cherchait en allant vivre à l'autre bout du monde. Il comprend pas très bien ce que je fais ici. Il pense que je suis un peu inconsciente, que je viens chercher peut-être une petite sensation d'adrénaline. Donc, entre les préjugés et l'indifférence, finalement, on fait pas vraiment connaissance. Et il quittera l'Afghanistan au bout d'un an. J'avais très envie de ce métier de reporter de guerre. Et puis je me suis confrontée à la réalité. Finalement, c'est ce que j'étais venue chercher d'ailleurs sur le terrain. C'est un métier qui m'a un petit peu déçue par les personnes qui le pratiquaient. En revanche, je suis tombée folle amoureuse de ce pays. Donc j'ai cherché d'autres projets pour pouvoir rester vivre en Afghanistan. Et je suis tombée sur une boîte de production montée par un Français et une Afghane. Et j'ai travaillé dans la prod, donc pour la télé afghane. Au bout de 3 ans, je décide de quitter l'Afghanistan pour m'installer vraiment dans une vie parisienne, avec un boulot sérieux, avec une carte de sécurité sociale, une carte de transport, etc. Tout ce qui va avec. Je crois que j'ai envie... de m'établir. Mes amis me manquent. J'ai une vraie famille amicale qui m'est extrêmement chère. Il faut savoir aussi que ma famille, ils ont été très patients, mais ça a été très difficile pour eux de supporter le stress, l'angoisse. Et c'est tous ces liens humains qui me font revenir en France. Et je ferai un vrai retour avec une vraie installation parisienne, un boulot que j'ai trouvé. Et j'ai une amie qui m'est extrêmement chère, je dis souvent que c'est la femme de ma vie, qui me parle d'un copain à elle, qui s'appelle Nicolas. Et elle me dit, je vais prendre le temps pour te le présenter, parce que le jour où je vais vous présenter l'un à l'autre, je pense que vous allez vous marier. Nicolas, je le rencontre au bout d'un certain temps. Je pense que ça fait peut-être un an ou deux ans après mon retour d'Afghanistan. Et on se voit dans un événement parisien qui s'appelle le Dîner en Blanc. Et on partage le même panier de pique-nique pour ce dîner très romantique, début de l'été. On est entouré de plusieurs milliers de personnes. Il n'empêche qu'on passera la soirée que tous les deux. Quand je rencontre Nicolas, il me plaît beaucoup. Il est très, très beau garçon. Et je comprends tout de suite pourquoi mon ami m'a dit que ce serait une évidence. On vient du même milieu social. Il travaille dans les chevaux de course. Ma mère est une femme passionnée par l'équitation. On a à peu près les mêmes ambitions, la même éducation, des valeurs en commun. On a le même âge. Tout est assez concordant. Il remplit énormément de cases, en fait. Et je pense que c'est la même chose pour moi. Il est charmant. Et lui tombe amoureux très rapidement. Pour moi, je comprends assez vite que ce sera différent de mes histoires précédentes. Ce n'est pas un coup de foudre, ce n'est pas la passion. C'est un amour presque réfléchi. Ça reste spontané, mais ce n'est pas dévorant. Je me dis, voilà, c'est ça la vie établie quand on est adulte. À ce moment-là, je dois avoir 25 ans, 26 ans. Et je vis encore une fois l'opposé de ce que je vivais les années précédentes. Mais presque en me disant que c'est mieux, parce que c'est comme ça que tout le monde fait. On se présente à nos parents, à nos familles, on part en vacances dans la famille de l'un comme de l'autre. Je passe beaucoup de temps dans le hara où ils travaillent. On fonctionne presque déjà comme des fiancés. Il y a des sentiments, mais il y a presque quelque chose d'arrangé entre deux jeunes de bonne famille. Et puis, un jour, cet homme français qui s'appelle Christian, pour qui j'ai travaillé en Afghanistan, celui qui avait cette boîte de prod, réapparaît dans ma vie. Il a pour moi une aura presque paternelle. C'est quelqu'un qui a une très bonne intuition, qui est d'une grande générosité amicale et qui m'a clairement pris sous son aile. Il m'amène dans un restaurant qu'on aime beaucoup dans le 9e arrondissement. Et là, on parle, il me questionne sur cette vie parisienne, il me questionne sur Nicolas. Il va même rencontrer Nicolas dans l'après-midi, Nicolas va passer. Christian va être très poli, très courtois. Mais dès que Nicolas est parti, il me regarde et il me dit « Cet homme n'a rien à faire avec toi ». Et moi, je réponds par un sourire. Christian me fait rire dans sa provocation. Mais déjà en moi, dans ma tête, il y a une partie qui a écouté et qui comprend pourquoi. Pourquoi il me dit ça. Lui, il a connu une autre Margot. Est-ce qu'il y en a une qui est plus authentique que l'autre? Je ne pense pas. Je crois que je suis un peu des deux. Mais lui vient me rappeler que, justement, je suis un peu des deux. Et il me dit, écoute, on a besoin de toi. avec Amida, sa femme. On veut montrer une autre vision de l'Afghanistan. On a marre que dans les médias, on ne parle de ce pays que à travers les burqas et les attentats. On va produire des documentaires à Kaboul et on a besoin de toi pour que tu les vendes à Dubaï. Donc l'idée est de monter une boîte de distribution à Dubaï. C'est un contrat d'un an. Je le quitte après, je pense, quelques bouteilles de chardonnay en disant je vais réfléchir, mais la décision elle est déjà prise. Et il le sait. Je vois Nicolas le lendemain. Je lui en parle déjà comme une décision. Et là où moi, je pense qu'à ce moment-là, chacun va reprendre sa route. Nicolas trouve ça formidable parce que Dubaï est aussi une plateforme intéressante pour, dans le marché des chevaux de course. Il est amené à faire des voyages là-bas pour son métier. Donc il me dit, écoute, c'est un an, c'est formidable. Je viendrai te voir de temps en temps. Donc en 2010, je pars pour un contrat d'un an à Dubaï. Je connais personne. Je connais un petit peu Dubaï parce que c'est en effet une escale pour aller à Kaboul. Donc j'étais déjà passée une ou deux fois. Je connais personne à part Amida avec qui je vais travailler. Et on a un ami en commun, Clément et moi, un ami qu'on a connu à Kaboul, que je contacte quelques jours avant mon départ, pour d'ailleurs pour un tout autre sujet, mais qui me dit, mais tu te souviens de Clément qui était avec nous à Kaboul, je crois qu'il fait un VIE, donc un VIE c'est un stage en entreprise, là-bas à Dubaï, je vais te donner son numéro de portable. Très bien, donc j'ai que ce numéro de portable quand j'arrive à Dubaï, je crois que je le contacte au bout de quelques jours, il n'a pas l'air très emballé et très disponible, mais on convient de prendre un apéro ensemble après la journée de boulot. Et je me souviens, le jour où on a convenu notre rendez-vous, je suis très embêtée parce que je ne me souviens plus à quoi il ressemble. Alors je décide de rester à côté de l'arrivée des taxis et je me dis, celui qui aura le plus la tête de français, ce sera lui. Et manque de bol, Clément va arriver sur une moto, sur une Royal Enfield. Heureusement, quand il enlève son casque, quand même, ma mémoire refonctionne et je le reconnais et je lui fais signe. Il est très beau, il est magnifique, il a les cheveux mi-longs, on va dire. Il est assez costaud, il doit faire à peu près 1m75. Il est brun, il a la barbe, il a les yeux un peu perçants, il a une bouche très fine. Et puis il a vraiment un look de baroudeur. Donc au-delà de la Royal Enfield vintage, il a sa chemise avec 3 ou 4 boutons ouverts, il a un jean super usé, des Converse complètement destroy, un sac à dos, quoi. Il est bronzé, il sent bon le sable chaud, quoi. Il est vraiment, il est très sexy. Il est très sexy, donc moi, c'est pas du tout le souvenir que j'avais gardé. Et donc, je suis quand même super agréablement surprise. Et on se pose dans un bar à vin, dans ce centre commercial. Et en fait, on va papoter des heures. Va repartir très rapidement pour des vacances. Il va aller faire du ski entre l'Iran et l'Afghanistan avec des copains, quoi. Je trouve ça incroyable. Donc, on convient de se revoir après ses vacances au ski en Iran. Et on devient amis et on devient très vite inséparables. On a beaucoup de points en commun, dont l'humour. C'est entre nous... des échanges à chaque fois assez percutants, où on va jouer beaucoup de l'ironie. On est confidents, on se parle beaucoup de nos familles. Chez Clément, c'est inhabituel. Il n'a pas vraiment l'habitude de parler de ses parents, de son histoire. Il vient d'une famille, pareil, parisienne, plutôt bourgeoise. Ses parents se sont séparés quand il était très jeune, quand il avait à peine 2 ans. C'est une famille qui est marquée par le deuil, puisque ses parents ont perdu 2 enfants. Les 2 premiers enfants sont morts très très jeunes, à quelques mois. Et après, ils ont eu 3 autres enfants, et le dernier, c'est Clément. Et Clément m'a dit cette phrase quand il m'a annoncé le décès de ses 2 frères qu'il n'a donc pas connus. Il m'a dit... C'est avec leur mort que je dois mon existence, parce que mes parents n'auraient jamais eu 5 enfants. Et là, je comprends ce garçon qui a soif d'aventure, qui a soif d'ailleurs. Lui aussi vient d'une famille très franco-française. Il n'y a pas beaucoup de baroudeurs dans sa famille. Et donc, lui aussi dépote un peu. Et lui, comme moi, on est des jeunes qui vont chercher quelque chose de très intime à l'étranger. On va chercher notre personnalité, on va chercher des connaissances qui sont au-delà de la vie professionnelle, qui sont humaines. Et je crois que c'est pour ça qu'on s'entend tout de suite très bien et qu'on rentre dans l'intimité de l'autre. Et c'est là où le danger va arriver, sans qu'on s'en aperçoive ou qu'on ait envie de s'en apercevoir, c'est qu'on devient très intime. On pense être amis, mais on est déjà rentré dans l'intimité de l'autre. On se confie des choses qu'on n'a jamais confiées à d'autres, par exemple. Et très vite, c'est avec lui que j'ai envie de passer le plus de temps, et c'est avec moi qu'il a envie de passer le plus de temps. Alors qu'il a plein de petites copines, plein d'aventures à droite à gauche. Moi, je rappelle que j'ai un petit ami qui m'attend à Paris. Tout le monde se rend compte de cette fusion, à part nous. Jusqu'à un voyage, pareil, c'est l'Aïd, donc c'est la fin du Ramadan, il y a quelques jours de congé. Encore une fois, on est dans un pays religieux, donc personne ne travaille pendant l'Aïd. Et on décide avec un couple d'amis de faire un road trip off-road. Donc ça veut dire qu'on va sortir de la route et on va aller de Dubaï jusqu'à la frontière du Yémen. On va passer par des sentiers à travers le désert. C'est extraordinaire, c'est l'aventure. Donc nous, on partage notre tente. Et puis ce qui devait arriver, arriva. Ça dérape. On n'est pas plus surpris que ça. Mais le lendemain, ça ne veut pas du tout dire pour nous qu'on est ensemble. Moi, je reste dans ma relation. Et lui reste dans son célibat. Quand il y a ce rapprochement physique, c'est très très fort. Mais c'est physique. Mais il y a une attirance tout d'un coup qui se dévoile. C'est chimique, c'est charnel. C'est finalement l'extension de notre fusion amicale, intellectuelle, psychologique qui se manifeste par nos corps. En fait, on se laisse complètement glisser avec bonheur sur cette fusion corps et cœur. Mais... on se convainc qu'on pourra contrôler la situation, qu'on peut être amis et amants et retenir nos sentiments. Et les mois se passent où de plus en plus nous sommes ensemble, de plus en plus notre intimité se développe et arrive la fin de mon contrat. Et quant à lui, il est muté au Brésil, à São Paulo. On doit partir chacun à 24 heures d'écart. Je pars la première et il partira le lendemain. À l'aéroport international de Dubaï, je pense que les passagers ont tous assisté à une scène presque hollywoodienne. On n'arrive plus à parler. C'est comme si notre gorge était serrée. Il y a des litres de sanglots qui sont bloqués. On n'arrive même plus à se regarder. Donc on garde la voiture et on évite tout contact. Ni regard, ni se toucher la main. Et encore moins de se parler parce que sinon ça va déborder. Et c'est ce qui se passe. On doit se regarder au moins pour se dire au revoir. Et puis je me souviens que c'est presque avec étonnement que je le regarde dans les yeux et que je dis « mais merde, je t'aime !» Et lui, il me regarde, il pleure, et il me dit, bah, merde, moi aussi. Et on est piégé parce qu'on n'a rien contrôlé du tout. Et que le moment où on s'en aperçoit, c'est le moment des adieux. Donc on va beaucoup pleurer. Et au bout d'un moment, je lui dis, écoute, il va falloir qu'on se donne toutes nos chances, chacun de notre côté, pour être heureux. Toi, pour t'installer au Brésil, vers cette nouvelle vie. Et moi, j'ai quand même quelqu'un qui m'attend à l'aéroport de Roissy. Et pour ça, moi, je ne crois qu'en une seule solution, c'est la solution du sparadrap. Il faut le retirer d'un coup. Donc je lui dis, il ne faut plus qu'on se parle. On est tellement addicts l'un à l'autre qu'il faut qu'on coupe tout de suite. C'est le sevrage. Et je vais faire ces 7 heures d'avion en pleurant. Je touche pas au plateau repas, j'allume pas l'écran. Je suis en plein chagrin d'amour. Donc quand j'arrive à Roissy, je suis dévastée. Finalement, c'est mon amie, cette fille qui m'a présenté Nicolas. C'est ma meilleure amie. Et c'est elle qui a très bien compris tout ce qui m'était arrivé. Et donc qui a très bien anticipé dans quel état je me retrouve. C'est elle qui vient me chercher à Roissy. Et quand je la vois, je lui dis que c'est terrible et que je ne sais franchement pas comment je vais me sortir de tout ça. Et je vais essayer. Je vais revoir Nicolas et je vais refouler énormément mes larmes et mes émotions. Et je suis persuadée que je peux réallumer mes sentiments pour lui. Et je vais tout faire pour. On va même partir en vacances ensemble. Nicolas sent que je suis là, mais que je ne suis pas là. Et pourtant, il est adorable, il s'accroche, il dit rien, il a tout compris. Et en fait, quand je le quitte, il n'est pas surpris, il est même gentil et il accepte. C'est la rupture la plus amicale que j'ai pu vivre. Il n'empêche qu'après, je me retrouve seule avec mon chagrin d'amour. On a une amie en commun, Clément et moi, qui s'appelle Arezo, qui est une ancienne aussi de Kaboul et qui est ma confidente à Paris. C'est avec elle que lui comme moi, on a tout raconté depuis le début. Elle était même venue à Dubaï, elle avait carrément été témoin de cette amitié qui n'en était pas une. Et je passe des heures et des heures dans mon petit appartement parisien à lui parler de Clément. Il allait lui dire que je ne m'en remets pas. Un soir, j'ai une soirée, je crois un dîner avec des amis. Je rentre chez moi, il doit être minuit. Je suis devant la glace de ma salle de bain avec mes cotons imbibés de démaquillant et je commence à enlever ce mascara. Donc j'ai des grosses taches noires sur les joues. Mon téléphone sonne et je vois que j'ai un texto d'Arezo qui me dit qu'elle est désolée et que peut-être elle perdra mon amitié. Mais que Clément est à Paris et qu'il vient de passer 4 heures à parler avec elle de moi. Et qu'elle, ça fait maintenant 2 mois qu'elle m'entend parler de lui. Et qu'il est en bas de mon immeuble et qu'elle vient de faire le code. Et qu'il est en train de monter. Et là, c'est panique à bord parce que je me regarde dans le miroir et je ressemble à un panda. Et il est hors de question que je retrouve l'homme de ma vie dans cet état-là. Il toque à la porte, je lui ouvre. Et là, c'est la sidération. On ne sait pas quoi dire. Ce que je vois tout de suite sur son visage, c'est qu'il a eu autant de peine que moi et que aucun de nous deux n'a réussi à être heureux l'un sans l'autre. On va passer un week-end collés ensemble. On va respirer le même air, on va énormément se parler, on va pleurer, on va rire. Et puis, il va repartir au Brésil. Et pendant un an, ce sera comme ça. Puisqu'il travaille pour une entreprise française, il est amené à faire pas mal d'allers-retours à Paris et on en profite. Et c'est chaque moment volé, on le prend. Et quand il est au Brésil, c'est des heures et des heures et des heures au téléphone. En février, Clément va fête ses 30 ans et je comprends que il va les fêter tout seul. Il vit dans une coloc un peu glauque à São Paulo. Et il est hors de question que Clément fête ses 30 ans tout seul. Alors je prends un avion et je viens passer un week-end au Brésil, ce qui pour moi est incroyable. Et quand j'arrive à São Paulo, j'ai un deuxième coup de foudre. Je retrouve l'homme de ma vie, mais là, je découvre une ville que j'adore, extrêmement charmante, bouillonnante, très belle, à la fois par la nature, une nature insolente qui vient péter les trottoirs, une architecture moderne avec des architectes de renom, des graffitis magnifiques, du street art partout dans la ville, et une ambiance. Et puis les Brésiliens, qui sont tellement, tellement gentils, mais dans le sens humain du terme. Et à la fin du week-end, je laisse sur le lit de Clément, juste avant de partir, lui il m'attend déjà dans la voiture, je laisse mes lunettes de soleil, parce qu'il m'avait dit qu'il les aimait beaucoup, il me les avait piquées pendant tout le week-end, avec un mot en dessous, en disant un mot, et je reviens, et je pars. Et quand j'arrive au travail, le lendemain, quasiment en sortant de l'aéroport en fait, une de mes collègues me regarde et me dit « Toi, tu vas bientôt démissionner. » Je dis « Qu'est-ce que tu racontes ?» Il y a un énorme bouquet de fleurs sur mon bureau. Et Clément dit « Reviens » dans un petit mot. Et là, on rentre dans une conversation différente, qui est, et finalement, si on essayait d'être heureux ensemble, pour voir comment ça fait. Et le ensemble, c'est le Brésil, ça ne peut pas être la France. Mais moi, c'est la première fois que je partirais vivre dans un pays sans que ça soit ma carrière. Donc pour moi, c'est une décision qui n'est pas facile pour mon ego, pour mon avenir, pour mes proches aussi. Et puis... un soir sur Skype, je suis à Londres ce soir-là et on parle de cette éventuelle décision. Et Clément m'explique qu'il faut un visa de travail pour moi. Et pour avoir un visa de travail, il faudrait que je sois rattachée à son visa à lui. Et pour ça, il faut se marier. Et ça, c'est la demande en mariage de Clément sur Skype. Et à mon retour de Londres, j'annonce à ma famille... plusieurs choses. La première, je suis avec un homme qu'ils ne connaissent pas. La deuxième, je vais partir vivre au Brésil, mais cette fois-ci sans date de retour. Et la troisième, c'est que je vais me marier avec cet homme qu'ils ne connaissent pas. Et je vais me marier là-bas au Brésil. Branle-bas de combat, Clément vient pour un week-end et en un week-end, avec je crois 6 heures de décalage horaire, on organise rencontre avec ma famille, rencontre avec sa famille. Et puis, le 17 octobre 2021, j'arrive à l'aéroport de Guarulhos, à São Paulo, avec Clément qui m'attend, sa petite chemisette, des tongs, un short, et c'est parti. En fait, on n'a jamais été en couple. Et tout d'un coup, nous voilà à partager une salle de bain, à vivre dans le même appartement. On est projetés... dans une vie de couple, alors qu'on est deux célibataires de longue date. Et on était des amants. Et c'est difficile au début. On a pas mal d'orgueil. Et puis, on n'est pas un couple. On devient un couple. Donc à São Paulo, le 21 décembre 2012, on se marie à la résidence consulaire française de São Paulo avec quatre amis. Le couple d'amis avec qui on avait fait ce voyage off-road jusqu'au Yémen et cette superbe amie qui m'avait présenté Nicolas et surtout qui m'avait recueilli à Roissy et son mari qui sera là aussi pour le mariage. Et on rentre dans une vie de jeune couple marié et moi, j'adore le Brésil et j'en fais mon pays. Je suis avec l'homme que j'aime. Je fais un métier que j'adore. À ce moment-là, je suis directrice de communication pour une agence d'architecture franco-brésilienne qui est géniale. Et en fait, cette ville, j'en fais mienne. Je rencontre des amis qui deviennent là aussi, encore une fois, de la famille. Et notre couple grandit. Et notre couple mûrit. Et on grandit ensemble parce qu'on met de l'humilité et de la complicité. On adoucit les angles. Ça se fait dans la douleur. mais on grandit ensemble, on devient des adultes en fait, ensemble. Et puis j'ai 30 ans, et moi j'ai un rêve depuis la naissance de ma petite sœur, donc depuis mes 6 ans, c'est que je rêve d'être maman. Quand on a compris qu'il fallait se marier, ce qu'on a appelé un mariage gris avec Clément, donc pour que je puisse vivre avec lui au Brésil et que je puisse travailler, je lui ai beaucoup parlé pour moi de la symbolique du mariage, l'engagement. Tous les deux, on a des parents divorcés et je ne veux pas que ça soit dans mon histoire. Et je veux des enfants. Et il le sait. Lui, il n'a pas forcément cette envie, en tout cas pas maintenant. Moi, c'est vital. Et c'est tout de suite. Et donc on essaye. Et pendant 2 ans, on essaye naturellement et ça ne marche pas. Et c'est terrible parce que c'est le début de la trentaine, donc concrètement, autour de moi, tout le monde tombe enceinte. Tout le monde. Sauf moi. Et je ne le vis pas bien. Un médecin qui nous accompagne dans un parcours PMA, procréation médicalement assistée. Et ça c'est la première bataille qu'on va mener ensemble, Clément et moi. C'est une bataille où clairement le front de bataille est chez moi, puisque moi je passerai 46 examens, là où il en passera un. On nous oriente assez rapidement vers la FIV, la fécondation in vitro. On a la chance, on a plusieurs embryons et on nous présente des statistiques plutôt favorables si on implante 2 embryons. À ce moment-là, je ne comprends pas du tout que 2 embryons, potentiellement, ça soit des jumeaux. On y va. Clément est très sûr de lui. Et c'est lui d'ailleurs qui dit au médecin, on y va, les 2 embryons. On les met. On s'aime très fort. Clément, il voit tout ce que mon corps subit. Parce que c'est un engagement, la PMA, du corps, des sentiments, du psychique. Et puis moi, je travaille. Donc, toutes ces piqûres qu'il faut faire, tous ces examens, c'est dans la pause déjeuner, c'est en partant un peu plus tôt, en arrivant un peu plus tard. On implante les embryons et il faut attendre 15 jours pour savoir si ça a marché. Et Clément doit partir au Mexique. Il voyage beaucoup pour son travail. Il revient du Mexique. On va faire la prise de sang et on décide tous les deux de voir les résultats ensemble quand on rentrera à la maison. Et puis Clément m'appelle, je suis au bureau. Je travaille dans un open space et j'entends le clavier de son ordinateur. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Et là, il éclate de rire. Et là, je suis ultra nerveuse. Et je lui crie dessus. Qu'est-ce que tu fais, Clément? Et il me dit, Margot, c'est bon. Et je dis, mais qu'est-ce que tu racontes et tout. Il me dit, je suis devant les résultats, c'est bon. Et je suis tellement nerveuse. Je lui demande de venir. Il arrive à mon bureau et on appelle ma belle-sœur qui est gynéco. Et je veux que ça soit un médecin qui me dise. Parce que moi, je ne veux pas être déçue. Et quand elle me dit que oui, je suis enceinte, que de toute évidence, le taux d'hormones explique que je suis très enceinte, je suis sur le trottoir avec Clément et je pleure. Et lui, il rigole, il rit. On appelle nos proches et c'est un des plus beaux moments de ma vie. C'est une émotion tellement forte. Ça y est, j'y ai droit. Enfin, moi aussi, je vais être maman. Puis ça veut dire qu'il y a de la vie dans mon ventre. Et je le ressens tout de suite. Et j'ai tellement d'amour déjà. À 4 mois de grossesse, on apprendra qu'il y a une difficulté sur la petite fille. Donc c'est un garçon et une fille. Elle n'a pas de liquide amniotique. Donc on est sur une grossesse extrêmement à risque. A priori, ses poumons n'arriveront pas à prendre le relais au moment de la naissance. Donc on se prépare pour une naissance d'un petit garçon. Et la grosse éventualité de la mortalité infantile pour notre fille. J'ai des contractions à 7 mois de grossesse, donc un accouchement prématuré. Mais Lou, notre fille, survit. Elle est intubée 24 heures. Au bout de 24 heures, ses poumons prendront le relais. Paul et Lou vont passer 28 jours en couveuse. Et pour nous, c'est notre deuxième champ de bataille. C'est la couveuse, qui est un monde, la néonate, qu'on découvre tous les deux. Et là, on est des soldats, on est des warriors. Il se trouve que je tombe malade, que je chope une maladie nosocomiale à la maternité. Et donc, moi aussi, je suis en soins intensifs dans un autre hôpital. Clément est notre rock, il est vraiment notre port d'attache pour nous trois. Et c'est finalement le symbole qu'il a au sein de notre famille. C'est pas le pater familias, mais c'est vraiment ce repère pour les enfants et moi. Et le 24 décembre, on sort tous les trois de l'hôpital. Et nous voilà, jeunes parents de jumeaux. C'est la folie furieuse à la maison. On patauge dans tous les sens du terme, mais on est super heureux. Je découvre un père extrêmement ému, extrêmement investi. Et finalement, ce rock, tout d'un coup, maintenant que tout le monde est sain et sauf, ce rock se montre avec une sensibilité énorme. C'est son talon d'Achille, ça y est, ce sera Paul et Lou, ce sera ses enfants. C'est là où il est extrêmement sensible. Et je l'aime encore plus en découvrant cette autre facette. J'ai connu le baroudeur. C'est aussi quelqu'un qui fait une formidable carrière. C'est quelqu'un qui a été très solide dans la maladie, ma maladie aussi à moi. Et là, je découvre un homme, un père extraordinaire. Extraordinaire, très aimant. Et je l'aime fois 3000. Du Brésil. On va passer 9 mois à Madrid avant d'être muté à New York parce qu'on est en pleine pandémie, qu'il n'y a pas de visa possible en 2020. Et donc, on va passer 9 mois à Madrid avant d'arriver à cette mutation professionnelle de Clément à New York. Arrivé à Madrid, on apprend que je suis enceinte, spontanément cette fois-ci. Malheureusement, cette grossesse va pas se poursuivre. Je vais faire 4 fausses couches. Et là, c'est la 3e bataille. À chaque fois, avec un Clément qui me tient la main. Mais c'est dur. À chaque fois, on en sort fatigué. On en a marre. On en a marre de ces déceptions. Donc, quand je découvre une dernière fois que je suis enceinte, on se dit que c'est la dernière fois. On connaît déjà la fin de l'histoire. Après ça, on arrête. On a 2 enfants en pleine santé, garçon et fille en plus, formidable. Et donc, on arrive à l'échographie des 2 mois, avec une tête de 3 mètres de long, parce qu'on sait que ça va s'arrêter là. Et là, on a ce gynéco espagnol formidable qui allume l'appareil d'échographie et qui hurle dans la pièce « Él está vivo !» Et ce petit garçon, c'est Jules. Je vais faire un déménagement Madrid-New York enceinte de 7 mois avec Paul et Lou, qui fêtent leurs 5 ans le 30 novembre 2021. Et le lendemain, Jules va naître, le 1er décembre 2021. Et depuis 2 ans, on est une famille nombreuse, puisqu'on a 3 enfants. On vit à New York, à Brooklyn. On a toujours l'impression d'être dans une aventure pas que sentimentale, dans une aventure familiale. On a embarqué nos familles qui sont venues nous voir au Brésil, en Espagne, à New York. Donc eux aussi sont devenus des expats. Et puis on les a embarqués dans les aléas de la maternité, de la maladie, du suspense. Et je crois qu'on a vaincu toutes ces batailles tous ensemble, au-delà de l'Atlantique et de la distance. Et on avance encore tous les 5, clopin-clopin, comme dit Clément. Et on a peut-être transmis à Paul, Lou et bientôt, je pense, à Jules, cette certitude que où qu'on soit, on s'adapte. Où qu'on soit, on est à la maison parce qu'on est tous les 5. Ce qui m'a donné envie de partager notre histoire, c'est plusieurs choses. D'abord, finalement, un amant peut devenir un mari. Oui, c'est vrai. Ensuite, je suis très sensible sur le sujet de l'infertilité, de la parentalité quand elle est compliquée. Et je voulais aussi témoigner qu'on peut s'en sortir extrêmement complice et solide. Je voulais partager cette histoire pour témoigner aussi de la force de l'amour et la force de mon conjoint, de mon compagnon de route depuis maintenant 11 ans, Clément. Je voulais lui dire que je suis extrêmement fière qu'il m'ait choisi pour faire cette route-là ensemble et je trouve qu'on l'a fait plutôt bien. Je voulais le remercier d'être à la fois ce port d'attache, mais aussi cette personne très sensible.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous aimez écouter des histoires de vie extraordinaires, foncez écouter notre podcast « Les Rescapés ». Et si vous êtes parents d'un ado extraordinaire, ils le sont tous, hein, un ado qui se pose beaucoup de questions sur les transformations de son corps ou de sa tête, vous avez aussi « Est-ce que c'est normal ?», notre nouveau podcast qui répond à toutes leurs interrogations les plus intimes. Bonne écoute.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.